BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom sur BFM Business. Bonjour à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News.
Bonjour Aurélie.
Alors émission exceptionnelle aujourd'hui Frédéric, on sera avec Laurent Soli, le vice-président Europe du Sud de Facebook, avec Cyril Giorgini, le cofondateur d'Auditoire, agence expérientielle du groupe Omnicom qui viendra nous présenter en exclusivité son nouveau réseau. Et puis enfin d'émission rencontre avec la commissaire Camille Chaise qui viendra nous parler du réseau social interne de la police nationale. On commence tout de suite.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et invité donc exceptionnel cette semaine, Laurent Soli, bonjour, vice-président Europe du Sud de Facebook. Je voudrais qu'on parle données personnelles pour commencer. On est à peu près 6 mois après le scandale Cambridge Analytica. Où en est aujourd'hui Facebook de son opération de transparence, Laurent Soli?
La protection des données personnelles pour Facebook, c'est une priorité. Et on n'a pas attendu l'affaire Cambridge Analytica pour le dire et le rappeler. Ça a été bien sûr pour nous un moment important et je crois qu'on a entrepris un travail considérable en Europe, mais partout dans le monde, après cette affaire. Technologiquement, tout d'abord, et on l'avait annoncé, et on poursuit, ça a été le travail d'audit et de revue de toutes les applications qui utilisaient la plateforme Facebook. Ouais. Ce travail est mené, a amené certaines applications à être sorties de la plateforme, à restreindre l'interface Facebook elle-même, à protéger mieux un certain nombre de données qui pouvaient être utilisées et qui l'étaient d'ailleurs avec le consentement des utilisateurs. Donc ça a été un travail de revue, un travail de resserrement des conditions et un travail aussi de communication. Il y a quelques jours, nous avons communiqué dans le monde sur l'état de cette revue. Un certain nombre d'applications qui n'étaient pas utilisées sont automatiquement sorties.
Et Mark Zuckerberg a donné un chiffre assez impressionnant d'ailleurs sur les suppressions. C'est 1 milliard, c'est ça, de faux comptes supprimés?
Alors ça, c'est le travail de lutte contre les fausses pages.
Oui, c'est ça. C'est un peu différent. La même chose.
C'est un peu différent. Mais je peux dire un mot si vous voulez. Il y a aussi un travail considérable qui est mené, qui est très important et prioritaire. En effet, Mark Zuckerberg a communiqué, à deux reprises d'ailleurs depuis quelques jours, sur le travail de lutte contre les fausses pages. Il y a plusieurs millions de fausses pages qui sont tentées d'être créées et de rentrer en activité sur la plateforme tous les jours. Et le travail a été considérablement renforcé parce qu'en face de nous, il y a des organisations bien structurées, bien financées, qui essayent d'utiliser la plateforme Facebook. C'est 2 milliards 230 millions de personnes aujourd'hui pour essayer d'avoir des activités qui n'ont rien à y faire. Et en effet, Mark Zuckerberg a rappelé qu'entre octobre et mars, entre 2017 et 2018, ça fait à peu près 1 milliard de fausses pages qui ont été bloquées. Et tous les trimestres d'ailleurs, de façon très transparente, nous communiquons là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Facebook a une grande responsabilité sur ces sujets. La protection des données, et je suis sûr que vous demanderez comme on a mis en place RGPD en Europe, la lutte contre les fausses pages et la lutte contre les fausses informations. C'est un travail qui, finalement, est permanent et qui va durer. Mais on voit aussi beaucoup de progrès qui ont été faits, je crois, par l'entreprise. Beaucoup de progrès dans les partenariats qui ont été faits, notamment dans la lutte contre les fausses informations. Et c'est ici aussi, en France, qu'on a initié les partenariats avec les fact-checkers, avec des médias français.
Type AFP.
L'AFP, qui est un partenaire mondial, notamment pour lutter contre les fausses vidéos. France Média Monde, j'étais avec toute l'équipe et la présidente, Mme Saragosse, hier pour faire le point. C'est un travail très important qui a été fait. Il y a eu beaucoup de critiques, mais quand vous êtes une plateforme comme Facebook, vous avez des responsabilités. Et le travail qui a été fait porte ses fruits, nous communiquons, et il y aura bien sûr encore beaucoup d'innovations pour lutter contre ces tentatives et contre les tentatives d'interférence sur la plateforme.
Frédéric, sur le RGPD,
alors,
justement.
Alors, justement, oui, le RGPD, les données personnelles, c'est aussi une grande, évidemment, un grand souci, une grande préoccupation des internautes, des citoyens, des États. Ouais. On a eu le RGPD en mai dernier, qui est entré en vigueur. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est que le paradoxe, finalement, c'est que Facebook et les cookies, il n'y a pas vraiment de rapport puisque tout le monde vient s'inscrire chez vous. Vous n'avez pas besoin de cookies. Donc, finalement, le RGPD, vous l'avez appliqué, évidemment, puisque c'est la loi. Mais finalement, est-ce que ça vous renforce pas au bout du compte parce que ça affaiblit les autres, en tout cas?
Ça, Frédéric, je sais pas. C'est votre appréciation. D'abord, qu'est-ce qu'on a fait sur le RGPD? D'abord, ce qui est le plus important, on l'a mis en œuvre.
Oui.
C'est un règlement important.
Juste chez nous.
On l'a mis en œuvre dans toute l'Europe, et vous le savez d'ailleurs, on l'a dit, l'esprit de RGPD a fait modifier l'ensemble des règles de confidentialité pour Facebook. Alors, en fonction des pays, il y a des dispositifs légaux qui sont pas exactement les mêmes, donc il faut adapter, bien sûr. Mm-hmm. Mais cet esprit qui a présidé à RGPD a présidé aussi à une évolution des règles de confidentialité, de protection des données pour Facebook dans le monde entier. Première chose, c'est qu'il faut mettre en place cette réglementation. Premier objectif, puisque c'est la priorité, la protection de vos données, parler aux personnes qui utilisent Facebook en Europe, en France. En Europe, c'est plus de 375 millions d'utilisateurs. En France, nous sommes aujourd'hui à 35 millions d'utilisateurs. D'abord, leur expliquer ce que ça allait changer. Donc, il y a une campagne pour tous les utilisateurs pour expliquer les nouveaux termes, les nouvelles conditions d'utilisation. Vous avez mis à jour, nous avons tous mis à jour pour le 25 mai, les termes et conditions d'utilisation de Facebook. Ensuite, surtout, on ne peut pas se limiter, en tout cas c'est notre stratégie, notre philosophie, à simplement dire voilà, les termes et conditions sont nouvelles, elles sont souvent longues à lire, pas de la faute des entreprises d'ailleurs, faute des textes qui sont complexes. On a changé beaucoup, on a amélioré les outils de contrôle et de paramétrage de votre profil Facebook et de vos outils de confidentialité, et notamment sur mobile. Il est extrêmement simple aujourd'hui de pouvoir tous les jours, si vous voulez, modifier les paramètres.
Enfin, personne ne le fait.
Je ne crois pas.
Vraiment?
Je ne crois pas parce que, je vous donne un exemple extrêmement concret. Cet été, en partenariat avec le groupe Énergie, on a passé une semaine de tournée des plages.
Ouais.
Et moi, je souhaitais, les équipes souhaitaient qu'on aille à la rencontre des Français, parce que à travers un smartphone, c'est bien, mais c'est mieux d'aller sur les plages à la rencontre des personnes qui utilisent les plateformes. Et ils avaient plein de questions. Comment on paramètre? Comment aller sur mon
profil
Facebook?
Ça veut dire qu'il y a de la pédagogie à faire, alors.
Et bien sûr. Il y a de la pédagogie, c'est le pilier. Le deuxième pilier pour RGPD, c'est la transparence. Est-ce que vous pouvez avoir accès à votre historique de données depuis que vous utilisez Facebook?
Ouais.
Oui. Est-ce que vous pouvez supprimer des données? Oui. Est-ce que vous pouvez même supprimer votre profil Facebook? Oui. Comment le fait-on? Est-ce que vous pouvez savoir quel type de données vous souhaitez partager avec des marques qui vont ensuite pouvoir faire leur campagne de communication et de publicité auprès de vous? On peut le faire. Pédagogie, transparence et contrôle. Vous contrôlez en réalité, et c'est bien normal, ce que vous voulez poster et partager. Mais ce travail, il est permanent. Parce qu'il faut en permanence expliquer, notamment aux plus jeunes, notamment à ceux qui rejoignent la plateforme, notamment à ceux qui ont une utilisation très forte sur mobile, comment aller utiliser ces outils qui sont aujourd'hui simples, accessibles. C'était ça le travail RGPD. Et puis, il a été aussi très important avec toutes les entreprises qui utilisent Facebook et Instagram dans notre pays, en Europe.
Bien sûr. Alors, il y a une autre chose qui concerne Facebook. Il y a des milliers de choses qui concernent Facebook, mais il y a une espèce d'information permanente, quasiment depuis que ça existe, qui est que il y a de moins en moins... les gens se détournent de Facebook. Il y a une semaine, il y a eu un peu plus, il y a eu un sondage qui disait que 25% à peu près des Américains avaient désinstallé leur appli. C'est quoi la réalité de ça? Et finalement, est-ce que vous, de toute façon, vous jouez pas sur les deux tableaux parce qu'il y a Instagram de l'autre côté qui, lui, continue à croître?
Les chiffres qu'on a ne reflètent pas cette étude. Nous publions tous les trimestres nos chiffres et nos chiffres d'utilisateurs. Donc, je vais vous donner les derniers chiffres qu'on a publiés à la fin du mois de juillet, arrêtés à la fin du mois de juin. Il y a sur Facebook 2 milliards 230 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Par rapport à juin 2017, c'est plus 11% de progression. Mais Facebook est aussi aujourd'hui une famille d'applications, une famille de plateformes. C'est Instagram, c'est Messenger et c'est WhatsApp. Et Facebook, comme entreprise, a aussi évolué pour rassembler des applications, des produits, des innovations gratuites pour vous permettre de communiquer et d'échanger. Instagram, nous l'avons annoncé également, c'est désormais plus d'un milliard d'utilisateurs. C'était 800 millions il y a un an. Et ce matin, je peux vous annoncer dans le monde, et je peux vous annoncer que nous avons franchi en France 17 millions d'utilisateurs.
17
d'Instagram.
Millions d'utilisateurs d'Instagram en France.
Absolument. Le dernier chiffre que nous avons publié était de 14, donc c'est une information que je vous donne ce matin. Ça montre la progression. Facebook, c'est une famille d'applications. C'est une famille de plateformes. C'est ça aussi la réalité du groupe. Mais voilà les chiffres.
Mmh. On va parler quand même de publicité parce qu'on n'en a pas encore parlé. Je crois qu'il y a quand même... j'ai lu le chiffre de 8 milliards de vidéos vues sur Facebook. Évidemment, tout ça, c'est la bataille des contenus avec beaucoup d'innovations en matière de publicité. On a beaucoup parlé d'ad-blockers, de publicité intrusive cette année. À quoi doit ressembler la pub de demain sur Facebook ?
Le phénomène des ad-blockers, qui est fort en France, est né aussi de la nécessité... de penser le format nouveau de la publicité d'aujourd'hui, digital et mobile. Et sur Facebook, on a beaucoup travaillé en réalité pendant de nombreuses années à penser et à proposer le meilleur schéma pour les marques. La publicité, la communication des marques sur Facebook n'est pas interruptive. Elle n'est pas intrusive.
Même avec les pauses là...
Oui, il y a des nouvelles...
Il y a des nouveaux formats quand même.
Ils sont testés. D'accord. Et ils sont testés avec un modèle, parce qu'en effet, ce point est intéressant. Il y a beaucoup travaillé, notamment avec les médias. Comment faire en sorte de pouvoir penser ce schéma dans un monde mobile ? Quand vous prenez d'abord le fil d'actualité, il n'y a pas de modèle interruptif. La publicité, la communication veut être extrêmement ciblée. Pour une raison fondamentale, c'est que votre mobile est un outil personnel. Mm-hmm. Vous souhaitez que certaines marques que vous aimez vous parlent. Ouais. Frédéric va avoir envie que d'autres marques lui parlent. C'est bien normal. Le travail et le modèle publicitaire mondial, Facebook et au fond d'autres plateformes, parce que la transformation digitale a surgi et s'est développée, c'est un modèle mobile, personnalisé, et si possible, le mieux possible, non interruptif et non intrusif. Quand nous testons les formats, puisqu'on c'est à cela que vous faites référence, ad break, on le fait en pensant à cela, on garde la personnalisation. Et on le fait en sorte, on va le tester, on l'a annoncé avec le lancement de Watch... Ouais. Et à partir de la fin septembre, qui est notre onglet vidéo et notre innovation, à partir de la fin septembre, on va pouvoir le tester ici dans notre pays, avec des formats en effet qui vont être introduits au milieu des vidéos. À condition que le format soit de 3 minutes et pas de publicité que nous testerons avec nos partenaires avant 1 minute de vidéo. Et toujours extrêmement bien ciblé. Le monde de la publicité du marketing a profondément changé. Et il a profondément changé avec ses grands piliers que sont le mobile, la personnalisation, la publicité dite native, je ne sais pas si le terme est le bon, mais vous voyez cette évolution qui fait que c'est au milieu de votre navigation personnalisée que les marques vous parlent. Vous l'acceptez si ces marques ont un sens pour vous. Et vous l'acceptez d'autant plus qu'il n'y en a pas trop et qu'elles n'interrompent pas votre expérience utilisateur. C'est le fondement de notre philosophie et de notre travail depuis des années et ça va le demeurer.
Merci Laurent Soli. Je rappelle que vous êtes le vice-président Europe du Sud de Facebook.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et cette semaine, on retrouve Charlotte Bricard de la rédaction de CB News. Bonjour Charlotte.
Bonjour Aurélie.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Charlotte.
La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé de Brand Purpose, qui est un peu le sujet qui fait beaucoup de bruit dans la planète pub, l'engagement des marques. Vous vous en souvenez?
On l'a vu à Cannes, au dernier Cannes Lions.
Absolument. Eh bien, je pense qu'on va retrouver ce sujet dans le prochain palmarès des Cannes Lions. La preuve en est, il y a déjà cette semaine un grand annonceur, pardon, qui en a fait l'usage. Il s'agit d'IKEA, le géant de l'ameublement, qui a surfé sur d'ailleurs un de ses plus gros succès cannois en revisitant son spot culte qui s'appelait La Lampe. Alors, si jamais vous êtes en télé, vous pouvez peut-être voir quelques images derrière. Pour les autres, c'était l'histoire, un court-métrage de 60 secondes superbement réalisé par Spike Jonze à l'époque, qui mettait en scène une petite lampe rouge qui était déposée sur un coin de trottoir par sa propriétaire. Et en fait, on ressentait toute la détresse de cette lampe d'être ainsi jetée au rebut par sa propriétaire. Alors, il y avait quelques notes de piano mélodramatiques qui venaient un peu renforcer tout ça. Et tout à coup, arrivait un grand Suédois qui nous disait « Si vous vous sentez triste pour cette lampe, vous êtes fou. Elle n'a pas de sentiment et la nouvelle est beaucoup mieux. »
Et donc, on refait la même.
Non. 15 ans, quand même, on passait et surtout pas malheureux, au contraire. Mais par contre, il y a une agence canadienne qui s'appelle Resync qui a réutilisé cette pub et qui en a imaginé la suite, qu'ils ont appelé ça Lampe 2. Mm-hmm. Et on retrouve notre petite lampe rouge sous sa pluie battante avec sa petite bande son, ses petites notes de piano qui finit de vivre sa tragédie. Sauf qu'une petite fille passe par là, ramasse la lampe, change l'ampoule et en fait sa lampe de chevet. Retour du grand Suédois qui nous dit cette fois « Si vous vous sentez heureux pour cette lampe, vous n'êtes pas fou, réutiliser les objets, c'est mieux. »
D'accord, donc belle morale quoi.
Très belle morale, très à propos. Alors ce qui est amusant, c'est que c'est pas non plus la première marque à réutiliser, à recycler ses publicités. Mais là où c'est pertinent, c'est qu'en fait la forme reprend le fond de l'idée, puisque même recyclent leur pub comme ils nous enjoignent à recycler nos meubles. Et surtout, Le sous créatif est assez malin puisqu'il ne parle pas de recyclage justement, mais de réutilisation et d'une forme de recyclage un peu plus human to human, de redonner un deuxième cycle de vie à ces objets. Donc sur le brain purpose et l'engagement, c'est plutôt malin.
Donc en fait, vous préférez celle de 2018 à l'ancienne ?
Ah non, j'ai dit c'est plutôt malin. C'est la signature de la précédente en 2002, c'était unboring. Donc on pourrait traduire ça par patience si on était ailleurs qu'à l'antenne. On ne fera pas. Mais bon, je trouve que celle-ci est un peu plus boring pour le coup.
Donc pas si bien réussi que ça se parie alors.
Si, intéressante.
Mitigée, on va dire. Merci Charlotte Bricard.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Le Zoom du jour, contrairement à nos habitudes, un seul invité cette semaine, Cyril Giorgini. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur et CEO d'Auditoire, agence expérientielle du groupe Omnicom. Et vous venez nous annoncer aujourd'hui, en exclusivité, le lancement du réseau OEG pour Omnicom, Experiential Group. C'est vraiment trop compliqué pour moi. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement ?
Oui, alors c'est vrai que les marques, c'est toujours compliqué. Il s'agit d'une grande et nouvelle aventure que nous lançons aujourd'hui. Initialement, j'étais pas le seul. On a créé le premier groupe français de communication événementielle et puis expérientielle. On a toujours eu la passion de l'international et puis on était des entrepreneurs, mais nous aimons bien un peu de sécurité. Donc Omnicom est rentré dans notre capital dès le début, mais nous sommes toujours restés entrepreneurs, donc actionnaires aux côtés de ce groupe. Et puis, ils nous ont donné l'opportunité de nous développer à l'international, ce qui était vraiment notre ambition de départ. Alors, on a d'abord appris notre métier en France pendant une quinzaine d'années.
Ouais.
Et ensuite, on a réussi à exporter le modèle dans deux territoires géographiques qui sont l'Asie et le Moyen-Orient, où en Asie, on est devenu aussi l'agence leader, l'agence internationale leader, parce qu'il y a quelques agences chinoises qui ont plusieurs milliers de collaborateurs. Donc, je ne vais pas me risquer à aller en phase 2. Mais néanmoins, on a été élu 3 fois au cours des 3 dernières années meilleur d'agence d'Asie par Adweek, donc ça nous fait assez plaisir. Et puis au Moyen-Orient, on a lancé d'abord une aventure au Qatar et puis une aventure à Dubaï, et toutes ces aventures ont un peu plus de 10 ans.
Vous étiez arrivé au bout, vous pouviez pas aller plus loin sans d'autres agences à vos côtés?
Alors, on peut aller de très loin et le plus loin possible avec des agences en start-up. Ce qui a été le cas sur toutes les agences qu'on a lancées. On en a lancé 7 au total sur différents marchés, puisqu'on a aussi une filière luxe qui s'appelle Luxury Makers, qui elle aussi a son réseau international. Mais la start-up, comme vous pouvez le voir, vieillissant, la start-up prend du temps. Alors en même temps, c'est un gage de moins de risques, parce que quand vous faites une start-up, vous viabilisez vos modèles en quelques mois. C'est-à-dire que si vous arrivez pas, au bout de quelques mois, on avait ouvert Dubaï mi-2008. Et il vous a pas échappé qu'il y a une petite crise financière qui est arrivée. Donc on est refermé début 2009 et on est revenu 5 ans plus tard ou 4 ans plus tard. Mais c'est vrai que dans les très grands marchés matures, quand on veut continuer à se développer, là je parle des États-Unis et aussi de quelques pays européens, là le faire from scratch, il y a des gens qui nous attendent pas, il y a des mastodontes. Et aujourd'hui, nos métiers ayant évolué, on a besoin de plus en plus de compétences intégrées.
Frédéric.
Donc vous êtes rapproché des entités d'Omnicom, de l'événementiel et de l'expérientiel.
Oui, alors ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, Omnicom est un groupe. On se rend pas compte à quel point les groupes peuvent laisser beaucoup de liberté aux managers
de leurs entités. C'est pas évident vu de l'extérieur.
C'est pas évident vu de l'extérieur, parce qu'on a l'impression que tout est dicté par un siège qui va dire on va faire ça, etc. Nous, c'est pas du tout ça. C'est qu'on a vu. Alors nous, on est au sein d'un réseau plus proche du réseau TBWA, mais on a vu qu'au sein de ce réseau, il y avait d'autres entités qui ont rejoint le groupe ou l'entité TBWA, mais en fait, Omnicom range les agences où ils veulent. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une agence expérientielle américaine qui s'appelle GMR Marketing, qui est une agence exceptionnelle sur le territoire, et qu'ils ont 1200 collaborateurs, ils existent depuis 30 ans, ils font 500 milliards de chiffre d'affaires, enfin c'est une agence assez sérieuse. Et en fait on les a approchés et ils nous ont approchés. Et
d'accord.
Donc l'histoire finalement c'est des histoires d'hommes. Et on s'est approché et on a décidé de mettre plein de choses en commun et de créer ce premier réseau mondial qui sera le plus grand d'agences expérientielles dans le monde. Mais on n'a pas décidé de fusionner ni de se coller des
présidents. Mais pourquoi en fait ?
Mais parce que je crois à une chose, qui est la culture d'entreprise. Je pense que vous aussi, et ici, vous devez recevoir beaucoup d'entrepreneurs qui ont créé et qui génèrent des cultures d'entreprise. Ouais. Et nous, on veut garder la culture auditoire, qui est une culture propre, et eux, ils ont leur culture propre. Il n'empêche qu'on arrive à faire cohabiter ces deux cultures sur des clients, sur des opérations, et aussi sur beaucoup de back-office, de compétences, d'expertise, ouais, de formation. Et c'est vrai que aujourd'hui, une agence d'expérientiel, d'événementiel qui n'a pas un digital
puissant... C'est quoi puissant, justement la différence entre les deux?
Alors la différence, c'est que dans la définition, alors je lisais, il y avait un magazine cette semaine qui publiait des chiffres sur l'événementiel. C'est assez incompréhensible parce qu'il disait qu'on pouvait aller de l'anniversaire de ses enfants jusqu'à une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, en passant d'ailleurs par du consumer pur qui peut être de l'expérientiel sur un lieu de vente pour des cosmétiques, par exemple, en réalité augmentée, ce genre de choses. Et donc du coup, cette définition est assez vaste. L'expérientiel aujourd'hui, on va considérer plusieurs choses. D'abord, qui s'adresse pas simplement au public interne comme beaucoup définissent l'événementiel en France, et nous aujourd'hui l'événementiel interne ne pèse que 50%, mais surtout l'expérientiel est là pour transformer en influenceurs tous ceux qui vont participer à un événement. Et il ne s'agit plus simplement de communiquer le jour de l'événement, mais il s'agit quand même de créer, de recruter, d'animer des communautés en amont, et puis surtout d'animer des communautés en aval. Et donc, on est dans cette logique-là. L'expérientiel, c'est le temps fort de la communication, mais finalement, tout ça s'inscrit quand même dans un temps fort digital qui est beaucoup plus long, et heureusement. Et donc, on a des experts en CRM à l'agence, on a des experts en social media B2B, en social media B2C, des gens qui développent, évidemment, des applis, tout un tas de choses que nous n'avions pas, et le fait aussi de partager ces savoir-faire, ces expertises avec GMR Marketing, et de créer ce premier réseau mondial, puis il y a une troisième agence, d'ailleurs, qui s'appelle Tero, qui, eux, ils sont UK, Allemagne, Espagne, ce qui couvre le monde, en fait, entier. On va avoir 150 bureaux dans le monde, et on est capable de traiter vraiment un client de A à Z dans le monde entier. Mais ça nécessite des investissements. Donc, il faut qu'on soit là, et il faut qu'on soit capable de produire des contenus qui ne seront pas simplement des contenus liés à l'événement. Puis, l'expérientiel aussi, c'est dédié aux consommateurs, dédié aux clients, des marques. Il y a de plus en plus de marques, que ce soit dans le luxe ou dans le grand public, qui font des événements ou des expériences pour leurs clients.
Merci beaucoup Cyril Giorgini. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et CEO d'Auditoire, agence donc expérientielle du groupe Omnicom.
BFM Business, Hebdo.com, comme un chef.
Commissaire Camille Chaise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'adjointe au chef de service de la communication de la police nationale. Vous avez lancé cette semaine Radio Police, un réseau interne, un réseau social interne à la police nationale. Comment est née cette démarche?
Alors c'est une démarche un peu ancienne, et surtout on part d'un constat d'une faiblesse de la communication interne dans la police. Souvent quand on a des messages de communication interne à passer à nos policiers sur le terrain, les messages sont assez peu réactifs, ils mettent du temps à arriver jusqu'au terrain, des fois ils sont déformés. Donc l'idée c'était d'arriver à parler directement, rapidement, dans un espace ergonomique, moderne, avec nos policiers de terrain.
Et sécurisé.
Sécurisé, bien entendu, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis, on a beaucoup de policiers qui n'ont pas accès assez facilement à un ordinateur avec intranet, parce que, par exemple, les CRS peuvent être en déplacement assez longtemps, les enquêteurs de la police judiciaire peuvent être sur une enquête. Donc, l'idée, c'était que depuis de leur smartphone, tout simplement, qu'on a tous dans notre poche, on puisse avoir ce lien avec l'institution par Radiopolice, donc le réseau social interne de la police.
Mais pas le lien qu'avec la hiérarchie, le lien entre les effectifs aussi?
Voilà, c'est à la fois un outil qui libère la parole, on peut tout dire sur ce réseau social, il y a un forum libre expression, mais aussi on peut créer des groupes entre soi, par communauté, soit au niveau d'un service de police, d'un commissariat, soit par des thématiques où on se rassemble. Par exemple, a été créé, j'ai vu ce matin, un espace pour ceux qui travaillent avec les drones dans la police, il y en a de plus en plus, ou pour les enquêteurs cyber, mais aussi sur des espaces de convivialité, les amoureux des mangas et de la bande dessinée, ou des collectionneurs d'écussons police. Voilà, c'est un espace qui se veut à la fois interprofessionnel pour échanger sur des problématiques professionnelles, mais aussi un espace de convivialité, d'échange.
C'est un vrai changement managérial et même presque de culture, en fait.
Tout à fait. On a envie de libérer la créativité, l'intelligence collective, de permettre à des policiers, sans considération de grade, sans considération de direction, sans considération de mission même, de pouvoir échanger sur des thématiques qui intéressent et de créer ensemble, d'innover ensemble, de partager pour être plus efficace et aussi pour être mieux au travail.
Pour être plus moderne aussi ?
Plus moderne, oui. La police en avait vraiment besoin. C'est un outil, mais comme vous le disiez, c'est une tendance d'un management plus transversal, avec aussi plus de convivialité. On connaît la franche camaraderie des services de police. Bah, là, on a essayé, dans un outil numérique, de la créer aussi.
J'imagine que c'est aussi, vous parliez tout à l'heure, de libérer la parole pour des policiers qui sont parfois confrontés à des situations difficiles. Ça peut permettre aussi d'éviter certaines situations de crise par moment pour certains de vos collègues.
Oui, ça permet que les policiers puissent à tout instant dire ce qu'ils ont sur le cœur, même si c'est minuit et qu'ils sont dans leur canapé, et qu'ils puissent avoir des collègues comme eux qui leur répondent, qui échangent. Et puis il y a un système sur ce réseau interne de messagerie privée. Donc après, si on veut discuter de personne à personne directement, on peut le faire en toute confidentialité. C'est pas un outil qui flique, c'est pas un outil qui surveille, c'est vraiment un outil qui a pour but de libérer quelque chose et de permettre aux gens très simplement, très naturellement d'échanger.
Merci beaucoup commissaire Camille Chaise, adjointe au chef du service de la communication de la police nationale. Merci aussi à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.